En vous parlant ces jours derniers du Sacré-Cœur, j'ai beaucoup insisté, bien sûr, sur le cœur à cœur que Jésus nous demande de vivre avec lui. Il nous propose de faire de toute notre vie un voyage de noces dans lequel nous pensons à vivre avec lui et pour lui comme deux amoureux. Jésus, c'est le plus grand amoureux du monde. Mais ce cœur à cœur avec Jésus ne doit évidemment pas nous faire oublier la présence des autres et l'amour que nous devons avoir pour eux. Tu aimeras le Seigneur ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus met ce commandement en disant qu'il est semblable au premier, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Déjà, quelque temps avant la venue de Jésus sur terre, les rabbins juifs avaient eu la bonne idée d'ajouter ce verset de la Bible au commandement essentiel de l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seulement pour les juifs, le prochain c'était le corps légionnaire, le juif. Tandis que Jésus nous demande d'aimer également nos ennemis. Mais avant de mourir, Jésus met la barre encore beaucoup plus haut, puisqu'il demande à ses apôtres le jeudi saint, « Mes amis, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Oh Seigneur, tu mets la barre très haut, puisque tu nous demandes d'aimer les autres autant que tu les aimes. Mais c'est impossible. Mais justement, Jésus a attendu le soir où il institue l'Eucharistie pour nous montrer le lien entre l'Eucharistie et la charité fraternelle. C'est sans doute la raison pour laquelle Jésus a attendu ce moment-là, pour bien nous montrer que ce qu'il nous demande au sujet de la charité fraternelle dépasse nos forces. C'est en venant en nous, par l'Eucharistie, en nous greffant un cœur nouveau, que nous allons pouvoir aimer les autres autant qu'ils les aiment, autant, non, mais à peu près, de la même façon, c'est-à-dire avec cette passion, ce désintéressement de Jésus. Donc, c'est très important, lorsque nous communions, vous le faites d'ailleurs, les chrétiens ont pris de plus en plus l'habitude de le faire. Quand vous communiez, vous demandez au Seigneur, dans votre action de grâce, de vous aider à aimer les autres avec son cœur. Jésus, remplis mon cœur d'Esprit Saint pour que je puisse, pendant le reste de la semaine, pendant le reste de la journée, les aimer avec ton propre cœur. Voilà, nous ne sommes pas seuls pour aimer Jésus, c'est avec le cœur de Jésus que nous aimons les autres. Seulement, il y a un autre aspect fondamental de la charité fraternelle, c'est que lorsque nous aimons les autres, nous faisons plaisir à Jésus. Nous faisons plaisir à Jésus lorsque nous vivons en intimité avec lui. Mais lorsque, dans la vie quotidienne, nous nous intéressons aux autres, cela fait également énormément plaisir à Jésus. Puisqu'il nous dira plus tard, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. » Voilà, aimer les autres, c'est aimer Jésus. C'est la fameuse description du jugement dernier du chapitre 25 de saint Matthieu. Les chrétiens sont bien convaincus de cette vérité, même s'ils ont du mal à le vivre. En tout cas, les saints le vivent intensément. Sœur Mère Thérèse de Calcutta disait souvent que si elle aimait tellement les Sidéens et les lépreux, c'est qu'elle était persuadée que c'était Jésus qu'elle aimait et qu'elle servait en servant ces pauvres gens. C'est un aspect fondamental de la charité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les chrétiens ont spontanément appelé les hôpitaux qu'ils ont fondés des hôtels Dieu. En recevant les malades, les pestiférés, c'est Jésus lui-même que nous recevons. Et c'est fondamental. Nous savons qu'on peut plaire à Jésus, non seulement en le priant, en vivant avec lui, mais en nous occupant des autres. On a même peut-être tendance aujourd'hui à penser que la seule façon d'aimer Jésus, c'est d'aimer les autres. Non, ça, c'est une erreur. On peut aussi aimer Jésus pour lui-même, c'est notre premier commandement. L'aimer de tout notre cœur, et pas seulement de toutes nos œuvres caritatives ou sociales. Seulement, vous connaissez peut-être la critique que font les incroyants à notre conception de la charité fraternelle. Ils disent par exemple Francis Janson, qui disait ça dans les années 50, dans ses conférences et dans ses livres. Les chrétiens ne vous aiment pas vraiment, parce qu'ils vous aiment pour l'amour de Dieu. Quand une religieuse infirmière aime les malades, Ce n'est pas les malades qu'elle aime, c'est Jésus. C'est à Jésus qu'elle veut faire plaisir. Donc je préfère être soigné par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que cette personne, elle ne croit pas en Dieu. Quand elle me sert, quand elle me rend service, c'est vraiment à moi qu'elle s'intéresse. Et non pas à Jésus, qui n'est pas là et qui ne souffre pas. Une critique intelligente de la charité fraternelle telle que la pensent les chrétiens. Mais il est facile d'y répondre. Lorsque les saints, qui sont nos modèles, aiment leur prochain, soignent leur prochain, se dévouent pour leur prochain, ils aiment vraiment leur prochain, même s'ils savent qu'en même temps, ils font plaisir à Jésus. Et nous avons le droit, mes frères, de penser à Jésus lorsque nous nous occupons des autres. Parce que cela ne nous empêche pas d'aimer les autres. Mais nous avons le droit de penser aux autres, de penser à Jésus lorsque nous nous occupons des autres. Ce n'est pas une mauvaise pensée. Jésus le dit d'ailleurs à Gabriel Bossis. Même avec les autres, cherche toujours à me faire plaisir. Fais leur plaisir pour me plaire. Souris au prochain comme si tu me souriais. Je suis le prochain. Si tu avais reçu hier ton petit cousin comme me recevant, moi, à 14 ans, c'eût été meilleur. Vois-moi en tout. Tu regrettes souvent de ne pas avoir vécu de mon temps pour jouir de ma présence. Songe que je suis présent dans tous ceux qui t'entourent. Et sans me contempler, mets-toi à mon service. Voilà. Mais par ailleurs, bien sûr, essaye de leur faire plaisir le plus possible. Applique-toi à rendre service. Sois ingénieuse à faire plaisir. Pense-y à l'avance. Cherche dans ton cœur ce qui pourrait faire plaisir, ce qui peut charmer la personne dont tu t'occupes. Mets dans tes rapports la plus fine délicatesse. Voilà. Mais le fait de savoir qu'en nous occupant des autres, nous faisons plaisir à Jésus, va nous aider à rester sereins lorsque les autres nous déçoivent, lorsque les autres ne répondent pas à nos services, à notre délicatesse. Par exemple, Gabriel Bossis, un soir, constate qu'il n'y a presque personne qui va venir à la représentation qu'elle a organisée. Et Jésus lui dit gentiment, « Mais c'est moi qui vais assister à la représentation, c'est l'essentiel, tu me fais plaisir. C'est plus important de me faire plaisir que de faire plaisir à ton public. » Le Seigneur réclame d'être aimé par-dessus tout. Nous ne sommes plus tellement habitués à cela, tellement nous pensons que nous penserions facilement que notre premier devoir, c'est d'aimer les autres, et que Jésus, c'est simplement le moyen d'aimer les autres. Non, nous sommes faits pour faire plaisir à Dieu. Et puis, lorsque les autres nous abandonnent, lorsque les autres nous déçoivent, lorsque des personnes dont nous nous sommes beaucoup occupés deviennent même nos ennemis, eh bien, nous pouvons continuer à jouir de la présence de Jésus en nous. Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Ce verset du psaume 30 que nous aimons bien est un verset qui va nous aider à ne pas paniquer lorsque les autres nous trahissent. Non, parce que il y a là dans mon cœur l'amour de Dieu dont j'ai le droit de jouir. Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère, tu vois ma déception. Et par conséquent, je vais continuer à aimer celui qui m'a abandonné. Pourquoi ? Parce que j'ai en moi tout l'amour de Jésus pour l'aimer. Et je vais l'aimer dans l'espérance qu'un jour on pourra de nouveau danser ensemble, sur terre ou à la limite dans le ciel. Qu'est-ce qui nous permet, on l'a déjà dit, d'aimer nos ennemis ? C'est que nous savons que ces ennemis peuvent se convertir, qu'ils peuvent nous demander pardon un jour et que nous pourrons danser ensemble mieux qu'avant notre dispute, avant notre séparation. Les chrétiens vivent dans l'espérance que leurs ennemis peuvent devenir leurs plus grands amis. C'est fondamental. Et c'est pourquoi il faut continuer à aimer nos ennemis. Ce n'est pas seulement ne pas leur en vouloir, c'est désirer la réconciliation avec eux. Ça, c'est le pardon chrétien, qui n'est possible que parce qu'on croit que Jésus est infiniment puissant et qu'on espère qu'il va les convertir, les retourner comme une crêpe et permettre ainsi notre réconciliation totale. Je le répète, aimer un ennemi, c'est souhaiter et prier pour que la réconciliation plénière existe un jour. Alors vous voyez que le fait d'aimer le Seigneur, d'avoir confiance en lui, ne nous empêche absolument pas d'aimer les autres, bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons souvent prier pour que le Seigneur mette en nous cette charité qui surpasse tout sentiment. En reprenant par exemple une formule qu'on attribue à saint François, mais qui en fait était composée par un franciscain du XIXe siècle. Seigneur, foyer d'amour, fais brûler mon cœur de charité. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. Seigneur, foyer d'amour, fais brûler mon cœur de charité. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Seigneur, foyer d'amour, fais brûler mon cœur de charité. Là où se trouve le doute, que nous révélions la foi. Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance. Seigneur, foyer d'amour, fais brûler mon cœur de charité. Oui, j'ai le droit de penser, et je laisse qu'il est possible que nous nous réconcilions un jour. Donc, n'ayons pas peur de penser que lorsque nous aimons les autres, nous faisons plaisir à Jésus. Et que si les autres ne sont pas contents, ce n'est pas trop grave, parce qu'il y a quelqu'un qui continue à nous aimer et avec lequel nous continuons à vivre en très grande intimité. Et puis, lorsque je suis critiqué, eh bien sûr que je dois tenir compte de la critique des autres pour me remettre en question, mais peut-être que cette critique n'est pas justifiée, et que de toute façon, même si j'ai commis des erreurs, des gaffes, le Seigneur, il les répare. C'est parfois très difficile d'accepter d'avoir fait des bêtises, des gaffes. Ce ne sont pas des péchés, mais ces gaffes ont fait du mal aux autres. Et en vieillissant, on se rend compte qu'on a fait pas mal de gaffes. Il y a celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Et notre consolation, c'est de penser que Jésus est capable de réparer nos gaffes. Il répare la porcelaine, on l'a dit ces jours-ci, comme dans le sud-est asiatique où l'on répare la porcelaine en mettant des filets d'or là où il y a une cassure. Eh bien, le Seigneur, il fait des choses magnifiques, heureusement. Et je lui confie toutes les gaffes que j'ai faites pour qu'il mette le baume là où je n'ai pas réussi à le mettre. Voilà. Continuons à voir comment le cœur de Jésus présent dans notre cœur, dans notre vie, peut nous aider. Il va nous aider, par exemple, à sourire à autrui. Nous sommes faits pour sourire à autrui. Et le fait de sourire, de prendre l'habitude de sourire à Jésus, on a vu que nous devons souvent lui faire des SMS, des sourires minuscules, silencieux, au cœur de nos épreuves, derrière notre masque de confiné, et que c'est cela la chose essentielle à faire. Eh bien, c'est sourire. Quand on a pris l'habitude de sourire à Jésus, on a l'habitude de sourire aussi à ceux que nous rencontrons. Et parce qu'on sait qu'en leur souriant, c'est à Jésus lui-même qu'on va faire plaisir. Le père de Parvillers, le père spirituel que Gabriel Bossis a rencontré un soir qu'elle faisait une représentation à Paris, a très bien compris que son charisme, c'était la joie. Suite à la première lettre qu'il lui avait adressée en 1930, elle lui écrit, elle lui répond « Merci mon cher père, j'ai eu grand bonheur à vous lire, parce que justement je crois que ma mission sur la terre a été de donner de la joie et de continuer à le faire. » Et lorsque Jésus se met à lui parler en direct, il ne cesse de lui rappeler que, effectivement, c'est sa mission. ce qu'elle avait découvert au contact de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle doit continuer à le vivre encore plus, sourire aux autres. Ta mission, c'est de semer de la joie. Tu m'as consacrée, lui dit-il. Sois donc toujours souriante. Tu te rappelles, dans une de tes pièces, tu disais « Je voudrais être marchande de sourires ». Et un jour, il lui dit, après qu'elle ait communié, « Tu dois donner de la joie et tout ce qui est joie. Ne sens-tu pas que c'est ta mission ? Alors fais naître les occasions de réjouir, sois le génie de la joie. » Et cette joie, c'est moi qui vais te la communiquer au fur et à mesure. Exerce-toi ta vertu préférée. Rappelle-toi, ma force, c'est la joie, et la joie, c'est moi. Répands la joie du ciel. Quand tu cherches à me faire plaisir, ne vois-tu pas comme une vie, ne te sens-tu pas comme une vie dans ta vie ? Tu ne t'aperçois pas que c'est moi qui te donne cette joie ? Est-ce que cette union avec moi ne peut pas faire autre chose que d'entraîner mes bénédictions chez tous ceux que tu rencontres ? Et ton sourire est une prédication vivante. Souris à tous. Ne parle pas sans sourire. Que ton visage reflète ma sainteté. Prends dans mon cœur de la miséricorde pour tous ceux qui t'approchent. Traduis-la par un sourire, par un geste d'accueil. Oh, prends l'habitude de sourire en toutes circonstances. Tu sais comme c'est fort une habitude. Tu as pris celle de la messe quotidienne, de la communion, du coucher par terre, sur le plancher, et tu ne peux plus t'en passer. Prends maintenant l'habitude du sourire intérieur, fidèle et régulier à tout événement. Il me charmera et te rapprochera de moi sans cesse, comme une nouvelle façon de me parler, et en même temps, tu prendras l'habitude de sourire aux autres. Demande à l'archange Saint-Michel, Saint-Gabriel plutôt, il lui dit le jour de la Saint-Gabriel, le jour de sa fête, demande à l'archange Gabriel de t'apprendre à chanter, de t'apprendre à servir, de t'apprendre à répandre cette joie qui est la force de Dieu. Une façon d'aimer les autres, c'est d'ouvrir ses lèvres. Quand on dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange », on ne demande pas seulement la grâce de bien chanter la gloire de Dieu, mais de bien sourire avec ses lèvres pour faire passer l'amour à travers notre visage et jusqu'à l'autre. Et si l'autre n'apprécie pas mon sourire, bon, c'est pas trop grave, parce que le Seigneur, lui, l'appréciera et rendra aux autres ce que je n'ai pas réussi à leur donner. Imaginez la souffrance de Marie et de Joseph quand ils ont vu que Joseph était sans doute mort au moment de la prédication de Jésus. La souffrance de Marie quand elle a vu que les gens de Nazareth et les cousins et les cousines de Jésus à Nazareth n'acceptaient pas son témoignage. Un village qui a profité pendant des années des exemples de la charité, de la délicatesse de Jésus, de Marie et de Joseph, et qui n'a pas cru pour autant à la prédication de Jésus. Voilà. Et Marie a dû beaucoup prier pour qu'un jour les gens de Nazareth se convertissent, bien sûr. Et puis, une façon aussi de vivre la charité fraternelle, c'est d'obéir à ce que dit Saint Jacques dans sa lettre. Surveille ta langue. Ne te laisse pas aller à la médisance. Vous savez que c'est une tentation énorme chez les chrétiens comme ailleurs. La Bible est remplie de gens qui se jalousent, depuis Caïn et Abel jusqu'aux apôtres qui se jalousent les uns les autres en se demandant quels sont ceux qui que Jésus préfère. Voilà. Eh bien, lorsque nous sommes soumis à cette tentation de jalousie, lorsque nous sommes tentés de dire du mal du prochain, rappelons-nous un certain nombre de choses. La première, c'est que nous avons parfois deux poids et deux mesures quand nous parlons des autres et que nous pensons à nous-mêmes. Quand lui n'achève pas son travail, je dis, il est paresseux. Quand moi, je n'achève pas mon travail, c'est que je suis trop surchargé, trop occupé. Quand lui parle de quelqu'un, c'est de la médisance. Quand moi, je parle de quelqu'un, c'est de la critique constructive. Quand lui tient à son point de vue, je dis que c'est un entêté. Quand moi, je tiens à mon point de vue, je dis que je suis simplement ferme dans mes convictions. Quand lui prend beaucoup de temps pour faire quelque chose, comme il est lent, quand moi, je prends beaucoup de temps pour faire quelque chose, je suis simplement soigneux. Quand lui est aimable, oh, il doit avoir une idée derrière la tête. Quand moi, je suis aimable, je manifeste tout simplement mon bon caractère. Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il bâcle. Quand je suis rapide pour faire quelque chose, je manifeste mon habileté. Quand lui fait quelque chose sans qu'on le lui demande, il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Quand moi, je m'occupe de quelque chose qui ne m'a pas été demandé, je prends des initiatives. Quand lui défend ses droits, c'est un mauvais esprit. Quand je défends les miens, je montre mon caractère. Voilà. Bon, c'est un peu simpliste, mais il y a quelque chose de vrai. Nous n'avons pas le même jugement lorsque nous regardons les autres et que nous nous regardons nous-mêmes. Et puis, soyons sensibles à la remarque très juste que fait saint François d'Assise quand il compose la règle de ses moines. Il a remarqué que dans les communautés, dans les premières communautés franciscaines comme ailleurs, il y avait des sujets qui avaient plutôt mauvais caractère et que les autres avaient beaucoup de mal à supporter. Et lorsque ce moine, ce frère était absent, oh, la communauté s'en donnait à cœur joie en quelque sorte pour le critiquer, pour mettre en valeur, en exergue toutes ces bêtises, tout ce qui énerve la communauté. Et saint François d'Assise fait remarquer à ses frères que lorsqu'il tombe comme ça à bras raccourcis sur un de leurs frères, il tombe dans un péché sans doute plus grave que celui qu'il dénonce chez ce frère difficile. Parce que leur médisance, leur mauvaise volonté vis-à-vis de ce frère qui les énerve est sans doute un péché plus grave que celui qu'il dénonce chez ce frère, qui est certainement des circonstances atténuantes. C'est parce qu'ils ne connaissent pas son passé, peut-être, qu'ils ne comprennent pas pourquoi son caractère a été abîmé par le manque d'affection dont il a souffert dans sa jeunesse. Voilà, ils ne devons jamais oublier ça. Ne jugez pas. Votre jugement est souvent une erreur. Vous ne connaissez pas les autres. Et Jésus ne cesse de le rappeler à sa chère Gabrielle. Quand tu critiques les autres, quand tu étais des prêtres par exemple, est-ce que tu as pensé à prier pour eux? Voilà. Et puis, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, mais il est temps d'arriver aussi à cette question fondamentale de la jalousie. C'est la grande difficulté des hommes depuis Cain et Abel jusqu'aux apôtres qui ne cessent de se jalouser les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? C'est une certaine tristesse qui s'empare de nous lorsque nous voyons les autres réussir mieux que nous, dans quelque domaine que ce soit. Alors, c'est vrai que vous ne jalousez pas, si vous n'êtes pas cordonnier, vous ne jalousez pas la façon dont les cordonniers s'occupent des chaussures, etc. Bon, chacun a sa spécialité. Mais vous jalousez ceux qui, dans le même domaine que vous, réussissent mieux. Les médecins risquent de se jalouser entre eux, les pharmaciens entre eux, etc. On jalouse celui qui semble avoir le plus de succès, le plus de clients, etc. Et donc, qui nous ravale un rang inférieur. Eh bien, cette tentation de jalousie qui est inévitable, elle est finalement une erreur quand on est chrétien. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas cette réussite mondaine, le succès que nous avons auprès des autres. Ce qui compte, c'est le succès que nous avons auprès de Dieu. C'est notre capacité justement de faire plaisir à Dieu dans le secret de notre cœur. Et cette qualité de plaisir, Dieu seul est capable de l'apprécier. Par conséquent, lorsque nous cédons à cette tentation de jalousie, lorsque nous entrons dans cette tentation de jalousie, ne devrions dire dans la confession suivante, « Mon père, j'ai été bête. » Car cette tristesse de jalousie est en fait une erreur. Je me trompe. Ce n'est pas parce que j'ai moins de succès aux yeux des autres que je réussis moins bien ma vie. Ce qui compte, c'est de plaire à Dieu et non pas de plaire aux autres. Et c'est une façon de nous rappeler, évidemment, et Jésus ne manque pas de le faire, de nous rappeler que ce qui compte, c'est ce que nous faisons aux yeux de Dieu et que nous pouvons lui plaire avec de toutes petites choses. Mettre dans les petits emplois l'infini de la charité, c'est essentiel. C'est Bossuet qui disait des choses comme cela. Les petites choses sont de petites choses, mais bien les faire, c'est une grande chose. Le pape François le rappelait récemment en disant « La sainteté ne signifie pas faire des choses extraordinaires, mais de faire celles qui sont ordinaires avec un amour fou et avec foi. » Donc, on lutte contre la jalousie en cultivant en nous cette persuasion que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est remarqué et félicité par beaucoup de gens, ce qui compte, c'est de plaire énormément à Jésus. Et souvent, justement, quand personne ne le sait, ça lui fait beaucoup de plaisir. C'est vrai, le Seigneur nous dit de ne pas mettre la bougie là, sous le boisseau. Il faut oser montrer ce qu'on est, faire de la réclame pour Jésus, en quelque sorte, en montrant que les chrétiens ne sont pas si bêtes que ça et qu'ils sont surtout qu'ils essayent d'être pleins de charité. Mais tout compte fait, ce qui compte, c'est ce qui ne se voit pas. C'est la vie cachée. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Quand, au début du carême, on nous le rappelle. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais la charité, ne le crie pas sur les toits. Fais-le pour me faire plaisir. Toujours la même chose. C'est, la première chose, c'est pas de plaire aux autres. Alors on veut plaire aux autres, évidemment, pour faire de la réclame pour Jésus. Mais non, non. La première chose, c'est de vraiment de faire plaire à Jésus. Et nous avons toujours dans la vie, dit Jésus à Gabriel Bossis, une réserve intérieure de petits soucis et de petites difficultés pouvant servir à l'expiation des péchés, les nôtres et ceux des autres. La vie ne se compose que de petites choses. Si je t'enlevais cette petite souffrance, tu ne pourrais plus avoir quelque chose à m'offrir. Comme j'avais égaré ma carte de demi-tarif, Jésus lui dit « Offre-moi ces petites contrariétés comme des épines que tu peux m'offrir. Tu sais bien que ce ne sont pas les épines qui me plaisent, mais les roses de tes sourires au milieu des épines, au milieu desquelles tu cueilles ces roses. Si tu savais combien je suis sensible aux petites choses. Je me plaignais de faire tous les jours la même chose, courrier, voyage, visite. Et Jésus lui dit, pour moi, c'est toujours nouveau quand tu m'aimes. Nous devrions nous lever tous les matins en pensant que nous allons faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Et ce que nous allons plaire, ce qui va peut-être faire plaire à Dieu, justement, c'est la qualité de notre accueil des autres, justement. D'avoir un regard très bienveillant sur les autres. Je pense à cette prière qui m'a été confiée par un foyer qui récite ça tous les matins depuis des années. Dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi ne voir que le bien de chacun. Attention, si nous sommes éducateurs, si nous sommes parents, nous devons regarder les défauts de nos enfants ou de nos élèves afin d'arriver à les corriger gentiment, astucieusement. Ça, c'est l'art de l'éducateur. Donc, il faut ne pas être aveugle, savoir regarder, reconsidérer les défauts de chacun, mais avoir quand même toujours un préjugé favorable. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et que l'on de ce jour, je te révèle. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Avoir une âme capable de voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Et Jésus le dit évidemment aussi à Gabriel Mossis. C'est le regard que tu dois avoir sur les autres, que tu dois soigner. Mais il y a une autre forme de jalousie plus subtile chez les chrétiens. C'est quand vous vous apercevez que dans votre milieu familial ou ecclésial, il y a des gens meilleurs que vous. Il y a des gens qui, manifestement, ont plus de générosité à jeûner, à prier, à partager leurs biens. Ils sont vraiment plus évangéliques que vous. Et donc, vous êtes tenté de vous dévaluer en disant « les autres, moi je suis nul par rapport aux autres ». Et vous êtes jaloux. Et souvent, cette jalousie entraîne une espèce de repérage. Vous essayez de voir si par hasard, ils ne sont pas si bien que ça, finalement. Nous n'acceptons pas que les autres soient meilleurs que nous. Qu'est-ce que je réponds à cette autre forme de jalousie, plus subtile, plus dangereuse encore ? Eh bien, nous ne connaissons pas le cœur des autres. Peut-être qu'ils ne sont pas si bien que cela. Et puis surtout, tant mieux s'ils sont meilleurs que moi. Parce que du coup, j'ai quelque chose de magnifique à offrir à Dieu. Vous voyez, quand vous rencontrez des gens qui manifestement vous sont supérieurs en vertu, au lieu de râler, au lieu de vous attrister, vous dites « chic, j'ai quelque chose à offrir à Dieu ». Car cette générosité des autres, eh bien, c'est un bien de famille. C'est la fameuse réalité de la communion des saints. Si vous admirez ce que font les autres, si au lieu de jalouser leurs qualités, vous les admirez et que vous les offrez à Dieu, vous participez à leur mérite, dit saint Augustin. Voyez, là aussi c'est une bêtise de vous attrister, alors que vous devriez vous réjouir d'avoir quelque chose de magnifique à offrir à Dieu dans votre prochaine Eucharistie, par Jésus, avec lui et en lui, au moment où le prêtre élève vers le ciel le corps et le sang de Jésus-Christ, vous offrez à Dieu les mérites de tous ceux qui vous entourent, ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont fort loin. Nous sommes prêtres avec c'est le sacerdoce des fidèles. Nous sommes faits pour offrir à Dieu non pas seulement nos petits sacrifices, nos petits sourires, mais ceux des autres. Donc, c'est une habitude à prendre, d'admirer, de vous émerveiller de ce que font les autres pour en féliciter le Seigneur et lui offrir toute cette générosité. Voilà, vous en réjouir dans le ciel. Si vous ne vous habituez pas à le faire sur terre, vous devrez faire un fameux stage au purgatoire, puisque dans le ciel, on passera son éternité à admirer tout ce qu'il y a de bien chez les autres. On ne se regardera pas dans une glace. Bien sûr, les autres, le Seigneur nous félicitera de ce que nous aurons fait de bien, mais nous serons en admiration et donc des qualités des autres. Donc, il faut faire des exercices d'admiration sur terre. D'où cette prière qui m'a été communiquée, et que je trouve qu'elle est pas mal quand même. Merci Seigneur pour tes merveilles. Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures, je te demande une faveur spéciale, ne me laisse jamais bâiller devant l'une de tes merveilles. Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, du miracle de savoir que je suis encore en vie, du miracle de respirer, de marcher et de penser, du miracle de ton amour et de ta miséricorde. Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons. Le printemps est un miracle, l'été est un miracle, l'automne un miracle, l'hiver est également un très beau miracle. Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit. Merci pour la beauté de cette région, merci pour le lever et le coucher du soleil, merci pour la lune et les étoiles. Fais-moi ce cadeau, Seigneur, le don de t'apprécier, ainsi que tout ce que tu fais. Un jour, je te demanderai le don suprême de t'aimer comme je le devrais, plus qu'hier et moins que demain. Voilà, prenez l'habitude d'admirer tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Pas seulement les chefs-d'œuvre des musées, mais les chefs-d'œuvre qui sont autour de vous. Tâchez de deviner la qualité de charité qui peut exister dans le cœur des autres, pour l'offrir à Dieu, au lieu de vous attrister d'être moins bien que les autres. Et puis, si vous avez une certaine tendance à être trop critique, à avoir la langue trop aiguisée, à jouir de votre esprit, parce qu'il y en a qui aiment bien de repérer les défauts des autres et de les piquer, de les épingler, eh bien, vous pourriez aller voir ce qu'a fait une Marie-Noël, cette femme poète qui habitait Auxerre, qui ne s'est jamais mariée, qui vivait un peu recluse, mais qui, à un certain moment, est devenue un grand poète. Et il est question aujourd'hui d'entamer un procès de canonisation, tellement elle a bien vécu sa vie chrétienne. Alors, elle explique dans ses notes intimes qu'à un certain moment, elle s'est convertie, assez tôt d'ailleurs, parce que cette fille qui n'avait pas beaucoup de succès, qui n'était pas spécialement jolie, avait un défaut terrible, c'est qu'elle se servait de son esprit pour critiquer les autres, pour épingler leur travers, et elle faisait rire. Mais un jour, elle s'est aperçue que ce n'était pas du tout évangélique et qu'elle devait changer. Et voici ce qu'elle écrit dans ses notes intimes. « À 18 ans, j'ai vendu mon esprit à Dieu, comme d'autres vendent leur âme au diable. En ce temps-là, j'étais gauche, laide, chétive, honteuse, comme le vilain petit canard. Mais j'avais de l'esprit, un esprit clair, gai et vif, un esprit aigu qui piquait, mordait sans miséricorde. Dès qu'un pauvre ridicule se risquait à ma vue, je le happais au vol et je le fixais d'un mot drôle, comme on fixe d'une épingle un insecte sur un bouchon. Cela m'amusait beaucoup et faisait rire la compagnie. Mais mes cousins me jugeaient rosse et mon frère m'appelait vipère. Il eût mieux fait de dire moustique ou guêpe. Un beau jour, je les ai crus et je me vis tel que j'étais, avec mon méchant dard. Une chrétienne pouvait-elle s'endurer ainsi ? Remords. Je m'en expliquais un matin avec notre Seigneur dans la petite chapelle de la Vierge à Saint-Pierre d'Auxerre. Renoncer à mon esprit, oh, sans lui, que me restait-il ? Je n'avais ni beauté ni charme, rien pour plaire. Le sacrifier, je ne pouvais m'y résoudre. Il m'en coûtait trop et il m'en coûtait tout. Mais dans ma conscience, Dieu attendait avec un air de reproche. C'est alors que me vint l'idée, peut-être il me la souffla, l'idée de lui céder mon esprit contre indemnité. Je lui ai vendu, cher, sans faire de prix. Dieu est riche, Dieu est juste, je comptais qu'il paierait bien. Une fois le marché conclu, je suis honnête en affaires, je n'osais plus me servir de l'objet que j'avais cédé. Je renonçais à faire rire les autres avec mon esprit. Je n'osais plus me servir de l'objet que j'avais cédé. D'abord, je parus contrainte, empruntée, comme quelqu'un frappé d'infirmité subite. Le mot me volait aux lèvres plus vite que ma volonté. Je serrais les lèvres, je le ravalais, à moitié dit. Ce n'était pas toujours commode. Mais l'accoutumance m'aida de plus en plus, et je suis devenue peu à peu la douce petite vieille, la petite vieille fille ni vue ni connue, à laquelle personne ne faisait attention, ni à la maison, ni en ville, pas plus attention qu'à une allumette éteinte. 20 ans passèrent. Vint le succès du poète, parce que on a très vite apprécié les poésies qu'elle composait et qu'elle publiait. Vint le succès singulier, inattendu. Indemnité, compensation ? Qui sait ce que m'a donné Dieu en échange de ma malice ? Pas l'amour, je suis toujours pas marié. Pas le bonheur. Les dons de poésie, non, je l'avais d'enfance. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné ? Je croirais plutôt que c'est un don de nouvelle vue, pour apercevoir du premier coup, au lieu de leur ridicule, la fleur et le miel des gens, même en ceux qui n'en ont pas. Si bien qu'à présent, je les aime. Tant même ridicules, sots et médiocres, que je puis de nouveau jouer avec ma manie simplement pour m'amuser, sans faire de mal à personne. Quelle belle conversion! Quelqu'un qui renonce à faire de l'esprit et qui reçoit en échange peu à peu la joie de s'apercevoir que les autres ne sont pas si mal que ça. Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres. Nous habituer à voir davantage ce qu'il y a de beau chez les autres. Il y a toujours quelque chose de bien chez les autres, au lieu de toujours voir ce qui ne va pas. Voilà une façon de vous servir de votre esprit pour vivre la charité fraternelle que Jésus vous encourage, vous demande à vivre en vous. Ce n'est pas moi qui aime, c'est Jésus en moi. Et puis, rappelez-vous qu'il y a une autre façon d'aimer les autres, c'est la communion des saints. Quand vous faites quelque chose de bien, sans parler, votre charité va enrichir l'Église et permettre à d'autres de se développer. Et c'est ce qui fait que vous pouvez penser que vous aidez des gens beaucoup plus importants que vous à bien faire leur travail. Je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Vous avez tous entendu parler sans doute de Mgr Charles, Mgr Maxime Charles, un prêtre qui est mort déjà depuis plusieurs années et qui a fondé le centre Richelieu à la Sorbonne après la guerre. Et tout de suite, il a eu beaucoup de succès. C'est vrai qu'il était intelligent et plein de générosité, et puis il priait, mais très vite, le centre Richelieu a eu beaucoup de succès après la guerre pour faire réfléchir les jeunes qui étaient à Paris, de les faire réfléchir sur la foi et les amener à prier. C'est lui qui a fondé aussi les premiers pèlerinages. Il est allé en pèlerinage à Jérusalem avec 12 gars. Puis ça s'est développé énormément par la suite. Alors, il explique que son succès, il le doit, son succès apostolique, il le doit à deux personnes qui sont mortes totalement ignorées. Quand il est arrivé à la Sorbonne, une personne est venue le voir. « Monsieur l'abbé, je viens de la part de votre prédécesseur qui vient de mourir en Allemagne, dans un camp de prisonniers. C'est l'abbé Basset qui était ici, aumônier en Sorbonne, avant la guerre. Et ce prêtre a l'impression de ne pas avoir réussi grand-chose dans son apostolat. En fait, c'était faux, puisque j'ai rencontré une personne qu'il avait bien connue avant la guerre, et elle me disait, l'abbé Basset, c'était quand même pas mal. C'était quand même un aumônier pas mal. Mais lui, il avait l'impression de n'avoir pas eu beaucoup d'influence. Donc, il s'apprête à mourir en Allemagne et dit à l'un de ses camarades, « Toi, tu vas t'en sortir. Eh bien, plus tard, tu iras voir mon successeur en Sorbonne et tu lui diras que ma mort lamentable ici en Allemagne et toute ma vie un peu ratée, je l'offre pour le succès de mon successeur. » Et d'autre part, Mgr Charles, quand il était pendant la guerre, il n'y avait pas de service militaire pour les jeunes gens, mais il y avait des chantiers de jeunesse lancé par le maréchal Pétain, et il y avait des aumôniers de chantier de jeunesse. Et le jeune abbé Charles, Maxime Charles, avait été nommé dans un chantier de jeunesse. Et il y avait dans ce chantier un jeune gars, Étienne Ficheux, qui avait beaucoup de sympathie pour l'abbé Charles, et lui dit, « Oh vous, monsieur l'abbé, plus tard, vous serez aumônier de jeunes. » Mais non, aumônier d'étudiants, non, je ne pense qu'à retourner dans un coin de Paris où je m'occupais des jossistes, des jeunes ouvriers. Moi, je ne suis pas fait du tout pour être aumônier d'étudiants. Je vous dis que vous serez aumônier d'étudiants et que ça marchera très bien. » Effectivement, après la guerre, le cardinal Suard, apprenant le succès que cet abbé Charles avait eu dans le château de jeunesse, il le nomme aumônier de la Sorbonne. Et il apprend que ce Jean Ficheux avait été arrêté par la Gestapo, il en était mort, et il était mort au moment où l'abbé Charles était nommé aumônier en Sorbonne. Et cet abbé, ce Jean Fichet lui avait dit, « Vous, plus tard, vous serez aumônier d'étudiants. » Voyez, l'abbé Charles a toujours pensé que s'il a réussi quelque chose dans son apostolat auprès des jeunes, il le doit beaucoup à son prédécesseur en Sorbonne, l'abbé Basset, à ce Jean Fichet, mort prématurément, qui ont offert leur vie pour lui. Donc, quand vous réussissez, vous pouvez dire, c'est à cause d'autres que je réussis. Et si vous ne réussissez pas, vous dites, mon échec, ou plutôt mon sourire au milieu de mon échec, je l'offre pour le succès de quelqu'un d'autre. Voilà, cette communion des saints vous permet de rester en paix et d'envisager les autres d'une autre façon. Pas toujours penser à votre succès personnel, mais de penser à ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Voilà. Et j'aime beaucoup penser que lorsque les autres vous déçoivent, il y a toujours des gens qui vous déçoivent à un certain moment, eh bien, au lieu de vous laisser aller à la déception et à l'amertume, vous tournez les yeux vers la Vierge Marie, l'étoile que chante Saint Bernard. À l'époque, il n'y avait pas de boussole comme maintenant. Non. Les marins utilisaient beaucoup les étoiles pour se diriger dans la nuit. Et alors, ils considéraient que Marie, c'était une étoile. Une étoile qui pouvait les aider dans le sourire, dans la présence, pouvait beaucoup les aider dans leur vie chrétienne. Eh bien, cela reste vrai. Et c'est pourquoi je vous invite beaucoup à chanter souvent un chant que j'aime bien et qui reprend les formules de Saint Bernard pour parler de la Sainte Vierge. Et spécialement quand vous allez voir un couplet qu'il dit lorsque vous êtes trahi, lorsque vous connaissez la suspicion ou la trahison de la part de vos frères ou de vos sœurs. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera. Elle te guidera. Et oui, la Vierge Marie nous permet de ne pas céder à la tristesse lorsque nous sommes trahis par les autres. La Sainte Vierge est toujours là. Et elle peut nous obtenir la grâce de l'espérance, de la réconciliation avec ceux-là même qui nous ont abandonnés, de la réconciliation avec ceux avec lesquels nous avons fait des gaffes et qui n'ont fait pas dans sa vie. Et au lieu de nous lamenter d'avoir fait des gaffes, des péchés, eh bien, on dit à la Sainte Vierge que je conserve la joie de savoir que tu es capable de m'obtenir des grâces extraordinaires de réconciliation et de conserver par conséquent une âme de fraternelle vis-à-vis des autres. Alors la paix viendra comme le chante un prêtre, Pierre Guilbert, dans une belle méditation sur ce que peut faire pour être un instrument de paix, pour vivre cette charité fraternelle que le cœur de Jésus me permet de vivre en me greffant un cœur semblable au sien. Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre, si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si la colère est pour toi une faiblesse et non une preuve de force, si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule façon de discussion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Bon, évidemment, tout cela, c'est impossible de le vivre à fond, mais c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Et un idéal, c'est fait pour être... C'est une résolution que l'on reprend sans cesse, en sachant que le Seigneur va nous aider à le vivre. Et justement, lorsque nous sommes déçus par les autres, il faut sans cesse crier, chanter notre espérance, en reprenant les mots d'un psaume, « Mets ta joie dans le Seigneur, et lui, il agira, et il t'accordera plus que tu ne peux imaginer. » N'oublions pas que le Seigneur veut nous faire des surprises. Alors il y a des surprises, des mauvaises surprises, que nous devons accepter, c'est la providence. Mais il y a des surprises merveilleuses, elles sont devant nous. Les plus belles surprises, nous ne les avons pas encore reçues. Parce que même sur terre, nous pouvons recevoir des cadeaux que nous n'avons pas encore reçus. Le Seigneur n'est pas en peine de les imaginer et de les cogiter. Voilà, mets ta joie dans le Seigneur, il agira et t'accordera plus que tu peux imaginer. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ton pain est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Et en attendant, eh bien, tâche de vivre comme Thérèse le chante dans un poème qu'elle a composé un lundi et mardi gras devant le Saint-Sacrement. Vivre d'amour. Vivre d'amour, d'abord, c'est, une fois de plus, se fier au cœur miséricordieux de Jésus qui pardonne tous nos retards, tous nos péchés, toutes nos chutes. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. Et je suis fragile, dit Thérèse. Elle le dit toujours dans l'une des strophes de ses poésies. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor. En un vase mortel, mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à ma rencontre, à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce, je vis d'amour. Et puis, c'est la charité fraternelle, vivre d'amour. C'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Puis dans t'aimer, la charité me presse, car je te vois dans les âmes mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile, vivre d'amour. Et lorsque Jésus se cache, eh bien j'accepte la nuit de la foi. Si Jésus joue à cache-cache avec moi, je ne lui en veux pas. Vivre d'amour lorsque Jésus sommeille, c'est le repos sur les flots orageux. Oh, ne crains pas, Seigneur, que je t'éveille, j'attends en paix le rivage des cieux. La foi bientôt déchirera son voile, mon espérance est de voir et de le voir un jour. La charité enfle et bousse ma voile, je vis d'amour. Et je termine en chantant que un jour, ce sera le rassemblement de tous. Mais avant ça, il faut aller chanter la bonne nouvelle à travers le monde. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimer en toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimer en toi. Vous êtes mes témoins, veillez dans la prière. Le royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de l'aimer en toi.